Bonjour à chacune et à chacun, merci pour votre patience, ce petit temps de préparation. Toujours un petit peu de temps. Voilà, donc nous reprenons notre étude de la Genèse et nous sommes au chapitre 49. Alors mon exposé sera en quatre temps. Donc nous aurons d'abord un mot d'introduction, où en sommes-nous ? Ensuite, deux parties, la poésie du dicible à l'indicible, puis la prophétie du déterminé à l'indéterminé, avant les deux mots de la Genèse en conclusion. Nous nous sommes proposés, lors de cette année scolaire 2023-2024, de parcourir le livre de la Genèse, en fait, d'en faire un survol. Et ce livre de la Genèse, comme nous l'avions vu en introduction, se divise en deux grandes parties. L'histoire des origines de la création de l'homme et puis l'histoire des origines des patriarches avec, comme nous l'avions vu, 11 tolédotes et donc 12 parties. Et nous nous en sommes arrivés à la dernière partie, les générations de Jacob, l'histoire de Joseph et de ses frères. Et dernière fois, Olivier, tu nous as présenté Genèse 37 à 50, Joseph pense le mal en bien, j'ai gardé le vieux titre, que tu avais changé. Et donc, nous avons fait la 14e séance avant la 13e, puisque le calendrier s'agençait ainsi. Mais finalement, ce n'est peut-être pas un mal, puisque ce chapitre sur lequel nous terminons, ce chapitre 49 de la Genèse, permet de faire une ouverture aussi sur la suite. Alors, pourquoi singulariser ce chapitre parmi les 50 chapitres de la Genèse ? Nous aurions pu en prendre sans doute d'autres pour nous attarder davantage dessus. Tu nous as balayé en fait 14 chapitres en une séance, tandis que là nous allons nous arrêter sur un chapitre particulier, même pas tous les versets de ce dit chapitre. Et pourquoi ? C'est parce que c'est un chapitre qui est particulier, en particulier sur le plan littéraire. Le livre de la Genèse est un livre narratif et donc il raconte des histoires. L'histoire du déluge, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, etc. Mais quand nous arrivons à ce chapitre 49 du livre de la Genèse, eh bien, nous changeons de style littéraire. Nous avons un style qui est poétique. Alors, il est vrai que le tout premier chapitre de la Bible ressort d'un style semi-poétique, mais il n'empêche qu'il faut attendre le chapitre 49 pour avoir, pour la première fois dans la révélation biblique, un livre qui est sous forme poétique. De plus, le livre de la Genèse jusque-là, dans les 48 premiers chapitres, nous a raconté des histoires telles qu'elles se passaient. C'est donc un propos narratif. Tandis que là, dès le début de ce chapitre 49, il nous est dit que Jacob va parler sur ce qui va arriver à la fin des temps. Et donc, ce chapitre 49 va aussi être le premier chapitre de la Bible, non seulement en style poétique, mais aussi en visée prophétique. Et donc, il me semblait qu'il convenait de nous attarder plus particulièrement sur ce livre, sur ce chapitre, eu égard à sa singularité dans l'ensemble du livre de la Genèse. Si je distingue plus avant la section B6, donc le 11e des tolédotes, celui de Jacob, et comme je rappelle, quand c'est le tolédote de Jacob, ça parle surtout de l'histoire de celui qui est son fils, donc là, l'histoire de Joseph, que Olivier nous avait présenté la dernière fois. Et ça, c'est juste pour vous, hein, parce que si je ne vous avais pas mis un chiasme, vous auriez été frustrés. Donc ici, pour voir que cette section, cette longue section qui va donc du chapitre 37, verset 2, jusqu'à la fin du chapitre 50, eh bien, s'agence de façon magnifique, à mon avis, en cette partie. Un tolédote, c'est en fait une tablette. Voici les générations. C'était ces tablettes qui, en fait, ont sans doute dû être conservées sous une forme ou une autre et que Moïse a rassemblées dans la Genèse et qu'on traduit souvent « voici les générations de » ou « voici le livre de ». Voilà. Et donc, cette dernière partie, qui est assez longue, hein, puisque c'est en nombre de chapitres la plus importante, donc qui couvre 14 chapitres, eh bien, se centre sur l'élévation de Joseph. Et là, le chapitre 49 s'inscrit dans la famille de Jacob réunie en Égypte jusqu'à la mort de Joseph, qui correspond à la famille de Jacob réunie en Canaan jusqu'à la vente de Joseph. Et on trouve 17 ans en Égypte, comme on avait trouvé 17 ans depuis la naissance de Joseph jusqu'à sa vente par ses frères. Et à la fin de cette partie, on voit Jacob qui veut mourir. Et à la fin de cette dernière, Jacob qui finalement meurt. Il y aurait d'autres correspondances, je ne vais pas rentrer dans ce détail puisque ce n'est pas mon propos. Mon propos est juste de dire que finalement, nous allons regarder un bout de cette partie. Alors, ce que je voulais aussi signaler avant de lire, parce qu'on va quand même lire ce chapitre 49, eh bien, c'est que ce chapitre 49 occupe aussi une place singulière dans l'ensemble du Pentateuque. Le Pentateuque s'agence, là aussi, avec de façon symétrique autour de Lévitique, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais avec la Genèse au début, le Deutéronome à la fin, la Genèse formant le prologue du Pentateuque et le Deutéronome l'épilogue. Et qu'est-ce que nous trouvons à la fin de la Genèse? L'avant-dernier chapitre, c'est la bénédiction de chacun des fils de Jacob. L'avant-dernier chapitre du Deutéronome, c'est la bénédiction de chaque tribu d'Israël. Le dernier chapitre de la Genèse, c'est la mort de Jacob et la mort de Joseph. Le dernier chapitre du Deutéronome, c'est la mort de Moïse. Et donc, ce n'est sans doute pas un hasard si nous nous trouvons avec cet agencement-là, voulu sans doute par l'Esprit de Dieu, par Moïse et par celui qui a raconté la mort de Moïse, puisque ça ne pouvait pas être lui, bien évidemment, pour nous donner cette vision-là et cette vision que la bénédiction est la mort. Et nous y reviendrons. Alors, nous allons faire une pause ici pour lire le chapitre 49 de la Genèse, et parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, je vais lire dans la version d'Arbi. Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force. » Le commencement de ma vigueur, prééminent en dignité et prééminent en force. Bouillonnant comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu l'as alors profané, il est monté sur mon lit. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives ont été des instruments de violence. Mon âme, n'entre pas dans leur conseil secret. Ma gloire, ne t'unis pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir, ils ont coupé les jarrets du taureau. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es monté d'auprès de la proie, mon fils. Il se courbe, il se couche comme un lion, et comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au cep excellent le petit de son ânesse. Il lave dans le vin ses vêtements, et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux sont rouges de vin, et ses dents blanches de lait. Zabulon logera sur la côte des mers et sera sur la côte des navires et son côté sera près de Sidon. Issachar est un âne ossu couché entre deux parcs. Il voit que le repos est bon et que le pays est agréable. Il incline son épaule pour porter et s'assujettit aux tribus du serviteur. Dan jugera son peuple comme une autre des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval et celui qui le monte tombe à la renverse. J'ai attendu ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe lui tombera dessus, et lui, il tombera sur leurs talons. D'Aser viendra le pain excellent, et lui, il fournira les délices royales. Nephtali est une biche lâchée, il profère de belles paroles. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement. Ils ont tiré contre lui et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père et il t'aidera. Et du Tout-Puissant et il te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice, Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres, jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur Père leur dit en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. 12 prophéties pour 12 fils. Et ici, je les ai agencées. Vous voyez l'ordre, ensuite les versets et le nombre de vers, tel que la NBS nous permet de le constater, puisque la version Darby ne le met pas bien en évidence dans sa mise en page. Mais vous voyez que le nombre de vers par enfant est très disparate, puisque 19 pour Joseph, 17 pour Judas, les autres en tombent rapidement à des chiffres beaucoup plus petits. Vous avez aussi le sens des noms tels que les mères ont pu le dire lorsque les enfants, les 12 enfants sont nés, sauf le dernier, c'était bien entendu Jacob, puisque Rachel était morte. Ces noms-là sont d'ailleurs repris, parfois en assonance, nous y reviendrons, dans les propos de Jacob. Et puis aussi le nom de la mère. Alors, l'ordonnancement des fils n'est pas le rang de naissance, comme vous le voyez, sauf au début pour les 4 premiers et puis pour les 2 derniers. Là, après, Jacob bénit d'abord les 6 fils de Léa, puis les 4 fils des concubines et termine par les 2 fils de Rachel. Donc, vous avez un rang de naissance. Il y aurait un certain nombre de choses à dire là-dessus, mais je ne veux pas m'attarder. Juste un point, c'est que pourquoi ai-je donné le sens ? C'est que pour les Hébreux, comme nous le savons, les noms étaient significatifs. Et quand on donnait un nom à quelqu'un, c'était souvent avec cette idée d'avoir une promesse ou une attente pour cet enfant et son avenir par le nom qu'on lui donnait. Et c'est bien là-dessus que Jacob élabore d'ailleurs à plusieurs reprises. Voilà donc pour l'introduction. Nous allons en venir donc à la première grande partie, cette partie sur la poésie, et que j'ai intitulée « Du disciple à l'indicible ». Et pour commencer, je vous propose 2 citations d'auteurs français qui n'étaient pas d'ailleurs particulièrement chrétiens, mais qui ont perçu quelque chose, me semble-t-il, de ce qu'est la poésie. Baudelaire a écrit « Le principe de la poésie est strictement et simplement l'aspiration humaine vers une beauté supérieure », et il met un B majuscule. Et George Sand, quant à elle, a dit « La poésie, c'est ce qui fait apparaître l'invisible ». Et donc, il me semble particulièrement pertinent que l'Esprit de Dieu ait choisi, en particulier dans l'Ancien Testament, de donner à peu près 30% de sa révélation sous cette forme poétique. Outre, bien entendu, ce que nous appelons les livres poétiques, à savoir Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, de nombreuses portions des prophètes sont en poésie, et nous trouvons, épars dans les livres historiques et dans le Pentateuque, des portions en poésie qui sont là pour nous faire nous porter vers la beauté supérieure, vers l'invisible, comme le disaient ces 2 auteurs. Néanmoins, la beauté, si je puis dire, de la poésie hébraïque, c'est que c'est une poésie qui est marquée principalement par le sens des mots. C'est une poésie sémantique et qui, de ce fait, est plus facile à traduire et à porter d'une langue vers une autre, et en particulier vers notre français, pour nous qui, en tout cas pour moi, ne lisons pas l'hébreu. Peut-être que Véro, tu pourras en donner quelques saveurs, mais néanmoins, c'est plus facile à porter dans une autre langue qu'une poésie qui, comme la poésie française classique en tout cas, et sur un nombre de pieds, sur des rimes qui ne sont pas toujours, même rarement, traduisibles dans une autre langue. Alors, quelques caractéristiques de la poésie hébraïque que nous retrouvons d'ailleurs dans notre chapitre et qui, dès ce premier chapitre inspiré en format poétique, nous ouvre sur les caractéristiques que nous allons trouver à de nombreuses reprises dans les chapitres prophétiques poétique, subséquent. Tout d'abord, la première caractéristique, c'est le parallélisme. Alors, ce parallélisme peut être synonymique pour préciser le sens. Par exemple, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, serpent-vipère, chemin-sentier. Antithétique pour opposer le sens. Gad, une troupe lui tombera dessus, mais lui, il tombera sur les talons. ou alors complémentaire pour ajouter un sens supplémentaire. Et ça, nous trouvons par exemple qu'elle soit sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Joseph est remplacé par cette longue expression « celui qui a été mis à part de ses frères ». Alors, nous trouvons aussi de nombreuses autres caractéristiques poétiques, comme les assonances qui sont fréquentes avec les noms propres. Par exemple, quand nous le lisons, nous ne le percevons pas forcément, mais « toi, Judas, tes frères te loueront ». Judas, ça veut dire « louange ». Donc, « toi, louange, tes frères te loueront ». Ou « Dan » qui signifie « juge ».« Juge, jugera son peuple ». Ou les allitérations. Alors, « Gad, une troupe lui tombera dessus ». En fait, si on lisait le nom de Gad, fait assonance avec troupe. Donc on pourrait lire troupe, une troupe lui troupera dessus, mais c'est lui qui s'attroupera sur ses talons. C'est l'effet que cela fait en hébreu. Les répétitions, il te bénira des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, et des bénédictions des saints et de la matrice, comme nous avons lu dans la bénédiction de Joseph. Et puis les ruptures, le passage du tu au il. Vous aurez remarqué que Jacob s'adresse à Ruben à la deuxième personne du singulier, puis à la fin, pour marquer cette rupture, et ça donne un effet très frappant, il est monté sur mon lit. En revanche, pour Judas, en symétrie, il commence à la troisième personne, Judas est un jeune lion, tu es monté auprès de la proie, la proie, mon fils. Voilà, et là, il s'adresse directement à lui. Et donc, il convient d'être sensible à toutes ces petites subtilités de la poésie qui, comme vous le voyez, c'est pas lourd, mais ça fait ressortir quelque chose. Et ça, si on y est sensible, ça nous permet de comprendre un petit peu le fait comme ça que Jacob s'éloigne de Ruben qui a si mal agi et que par contre, Judas, eh bien, c'est mon fils. C'est celui à qui il va confier des bénédictions particulières. Et puis, il y a quelques images à faire chanter. Alors, il se trouve que dans notre centre, nous avons un voisin qui a un arbuste plein de fleurs. Et cet arbuste, parfois, déborde sur notre centre. Il passe par-dessus le mur. Et j'avais pris, il y a peut-être un ou deux ans, une photo, parce que je m'étais dit, ça me fait trop penser à cette expression « la branche par-dessus la muraille ». Cette branche dont il est question dans la bénédiction de Jacob. Alors, je me suis dit, peut-être pour une fois, je pourrais récupérer cette photo. Donc, voilà, je l'ai récupérée aujourd'hui. Et ça, chaque fois que je vois cet arbuste couvert de fleurs qui passe par-dessus la muraille, je pense à ce beau verset. Joseph est une branche qui porte du fruit, une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Et puis, il faut faire chanter vraiment ces images. Par exemple, toujours dans la bénédiction de Joseph, quand il est dit « son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont souples ». Donc, vous voyez combien ça nous permet de voir que chez Joseph, il y a à la fois la fermeté et la souplesse. Et combien on l'a vu dans le récit que tu nous as évoqué l'autre fois, Olivier, quand on voit combien Joseph, à la fois, est ferme dans le sens qu'il est parfois un peu dur, on a l'impression avec ses frères, il veut les amener à une repentance profonde, mais il est à la fois souple, on le voit pleurer, il se retire pour pleurer parce qu'il est très ému, et puis on voit combien il arrive à amener les choses. Et alors, vous voyez, à la fois ferme et souple, et c'est rendu par cette idée de l'arc. Et on voit un tireur à l'arc qui, à la fois, bande son arc, mais a aussi la souplesse des gestes pour que la flèche parte bien. Voilà. Laissons chanter ces images des textes poétiques de la Bible. Alors, il y a aussi une autre caractéristique qui est particulièrement présente dans notre chapitre 49, qui est les analogies animalières. Alors, ici, je vous ai mis quelques livres. Alors, les analogies animalières, les fables de la Fontaine, déjà, en abondé, ces analogies. Et puis, peu après Seconde Guerre mondiale, il y a une BD qui est sortie qui s'appelle « La bête est morte » et qui représentait les grands personnages de la Seconde Guerre mondiale sous la forme d'animaux. Churchill, c'était le bulldog. Elle est très, très marrante, cette BD. Et puis, plus près de nous, peut-être que certains, dans leur adolescence, ont lu « De Cap et de Croc ». Et puis, il y a une BD que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle « Black Sad ». Et là aussi, où le dessinateur prend les personnages et leur donne une tête d'animal qui correspond à leur caractère. Et c'est aussi très, très intéressant à voir. D'ailleurs, il y a toute un pan de la BD qui est une BD animalière. Et en fait, ça a son origine en Genèse 49, tout simplement. Hein. Puisque en Genèse 49, Judas, c'est un lion, Issachar, c'est un âne, Dan, c'est un serpent, Neftali, c'est une biche, et Benjamin, c'est un loup. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé. Autre point aussi sur lequel j'aimerais insister, pour terminer, peut-être sur cet aspect poétique, ce sont ce que j'appelle les polysémies riches de sens. Alors, polysémie, ça veut dire que quand il y a un mot qui a plusieurs sens. Et ça, nous le trouvons particulièrement dans la poésie. C'est-à-dire qu'il y a un mot, mais on peut lui donner un sens, mais aussi on peut lui donner un autre sens. Alors, nous étions quelques jours à une conférence biblique et Henri Blocher insistait sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul sens d'un verset. Je suis d'accord avec lui, mais il a dit qu'il y avait quand même quelques exceptions. Et donc, une exception peut être, me semble-t-il, certains textes poétiques où volontairement, l'auteur laisse l'ambiguïté sur le sens pour ouvrir la possibilité à une polysémie qui est riche. Le premier auquel nous pouvons penser en lisant ce chapitre 49, c'est le Shiloh. Oh là là. Alors, si vous regardez, peut-être que certains d'entre vous disposent de bibles d'études, vous remarquerez que les notes sur Shiloh souvent sont assez longues. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui est difficile à traduire, et d'ailleurs, bien souvent, les traducteurs ont laissé le mot. Comme ça, au moins, on se plus tranquille. Et d'aucuns, d'ailleurs, même parmi les rabbins, prennent Shiloh comme un nom propre qui désigne le Messie. Alors, certains ont rapproché Shiloh de Silo, Silo, le lieu où a demeuré l'arche pendant le temps des juges, sauf que c'est pas... alors là aussi, je m'avance dans des... aux lesquels je nage pas bien, mais que ceux qui savent l'hébreu disent non, ça marche pas, parce que c'est pas... Il y a une assonance, mais c'est pas en fait les mêmes lettres. Donc ça, laissons tomber ça. En revanche, suivant le découpage, on peut traduire Shiloh comme celui à qui il appartient. Il appartient, l'antécédent étant le bâton de commandement. Ou alors celui qui doit être envoyé. Ou alors, en découpant un peu différemment les lettres, puisque vous savez qu'en hébreu, il n'y a que des lettres majuscules, il n'y a pas des voyelles, il n'y a que les consonnes, et donc on peut les découper un peu différemment, jusqu'à ce que le tribut lui soit apporté, ou voire même un nom propre. Et vous voyez combien c'est riche de sens, surtout si on pense, à juste titre, à la suite de la tradition rabbinique et de la tradition, depuis les pères de l'Église, de l'interprétation chrétienne, que le Shiloh représente une description de ce que sera le Messie, puisque c'est à lui que sera la domination universelle, comme Daniel et puis le Nouveau Testament vont le dire si amplement. Eh bien, c'est le Shiloh, si c'est le Messie, et c'est lui, c'est lui qui doit être envoyé, mais c'est lui à qui aussi tout le tribut va être donné. Pensons à ces scènes de l'Apocalypse où on donne tout à l'agneau, au lion de Juda, voilà. Et celui à qui il appartient le bâton de commandement, bien oui, c'est celui, Jésus, et celui à qui appartient le bâton de commandement et l'autorité suprême. Alors aussi, une autre polysémie qui est peut-être moins évidente, c'est la comparaison pour Joseph. J'ai déjà évoqué cette idée de branche qui passe par-dessus la muraille, mais on pourrait aussi traduire, et c'est certain, l'option que retiennent certains exégètes, nous pourrions aussi traduire Joseph est un poulain sauvage près d'une source, un âne sauvage sur une terrasse étagée, et on peut en tirer aussi un sens assez riche. Donc tout ça pour dire que la poésie, c'est aussi susceptible, parfois, de temps en temps, de sens différents, mais ces sens, pour ma part, bien souvent ne s'opposent pas, mais ouvrent au contraire à une richesse qu'il nous convient de constater et d'exploiter. Nous en venons maintenant à la seconde partie de l'exposé, la prophétie du déterminé à l'indéterminé. Et dès ce premier exposé prophétique, si je puis dire, de la Bible, alors nous avions trouvé des paroles prophétiques quand, bien entendu, Dieu dit au serpent « la semence de la femme te brisera la tête », eh bien c'est bien une prophétie, mais c'était juste un petit bout. Tandis que là, nous sommes sur un chapitre qui développe un élément prophétique, et nous l'avons bien, puisque dès le début, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours ». Mais néanmoins, on constate que fait Jacob, en tout cas pour ses trois premiers fils, il commence à rappeler le passé. Pour Ruben, il va rappeler le fait que Ruben, Genèse chapitre 35, a eu l'outrecuidance de coucher avec Bila, qui était la concubine de son père. Sans doute, vu la culture de l'époque, quand on prenait la concubine de son père, c'était une manière de marquer qu'on voulait avoir le pouvoir à la suite du père. C'est ce que va faire Absalom avec les concubines de David, et c'est ce que veut faire aussi Adonijah avec Abishag, la dernière concubine de David, au début du Livre des Rois. Et donc, sans doute, là, Ruben se disait, en couchant avec Bila, je montre au moins à tout le monde que qui c'est qui va succéder à Jacob, ça va être moi, ce n'est pas les 11 autres. Et, malheureusement, problème. Et puis aussi, Jacob va rappeler le sinistre épisode de Genèse 34, donc le chapitre d'avant, où les deux fils, Siméon et Lévi, vont sauvagement assassiner les Sichémites, puisque un prince de Sichem avait couché avec Dina, leur sœur, et ils voulaient venger la chose, mais ils l'ont fait avec une cruauté que Jacob avait déploré à l'époque et qu'il reprend aussi ici. Donc, la prophétie, l'horizon prophétique, c'est le passé, le rappel de la conduite antérieure. Et ça, c'est quand même assez frappant, parce que quand nous regardons une Bible hébraïque, il vaut mieux bien souvent regarder l'ordre des livres dans une Bible hébraïque que dans une Bible protestante. Pourquoi ? Parce que c'est l'ordre, me semble-t-il, inspiré. Et vous avez les premiers prophètes et les derniers prophètes. C'est quoi les premiers prophètes ? C'est Josué, Juge, Samuel et Roi. La première fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, que j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, les premiers prophètes, ça fait que raconter des choses passées. Elle est où la prophétie là-dedans ? Parce que pour moi, la prophétie, c'était qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps ? Eh bien, parce que la prophétie, c'est parler devant de la part de Dieu. Et le passé nous parle aussi. De sorte que ce n'est pas sans raison que les Juifs appellent ces livres historiques les premiers prophètes. Parce que c'est une façon de la part de Dieu de nous parler à partir du passé, à partir de ce qui s'est passé autrefois, pour nous donner des leçons pour aujourd'hui. Mais Jacob va aussi regarder vers l'avenir. Et il va regarder plusieurs horizons. Il va regarder l'horizon à moyen terme, du temps de Moïse, et j'aurais dû mettre aussi de Josué. Puisque Moïse reprend ce chapitre 49 dans le Pentateuque qu'il a sans doute agencé peu avant l'entrée dans le pays, et de nombreuses prophéties sur des fils, en fait, font allusion à la division du pays et à la localisation des tribus dans le pays qui vont, selon le lotissement que Josué va faire dans le livre qui porte son nom. Donc, c'est l'horizon à moyen terme. Mais, à ce moment-là, il n'y a pas de roi. Et nous avons vu déjà rapidement à propos de Juda que Jacob fait allusion à ce roi, à ce dominateur. Et donc, nous sommes aussi portés vers un peu plus tard, sans doute 500 ans après Moïse à peu près, à un horizon un peu plus lointain, la suite de l'histoire du peuple d'Israël se retrouve aussi, ici ou là, dans les propos que Jacob a tenus par rapport à ses fils. Mais ces deux horizons, à moyen terme et un peu plus lointain, n'épuisent pas la totalité du sens, puisque nous voyons qu'il y avait cette prophétie allée jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et est-ce que Shiloh est venu avec Moïse ? Bon, non. Est-ce que Shiloh est venu avec David ? Partiellement, oui, mais ça n'épuisait absolument pas le sens. Et il faut attendre l'horizon encore plus lointain avec Jésus pour arriver à la bénédiction et au jugement final. Et donc, Jacob prononce ces paroles, Moïse les consigne par écrit, mais il intègre cela dans un horizon qui va plus loin. Et c'est comme si Jacob disait à ses fils, « Voyez, voilà quelle a été votre conduite passée, au moins pour quelques-uns d'entre vous, voilà ce qu'elle sera l'avenir, mais vous êtes dans le plan de Dieu, mais vous êtes juste à un moment. Le plan de Dieu va continuer. » Et ça, Dieu peut nous le dire à chacun de nous. Le plan de Dieu aussi va continuer. Et Moïse, c'est pareil aussi, par rapport à ce peuple qui souffrait en Égypte, eh bien, lui donner des perspectives en rappelant les propos de Jacob d'entrer en Canaan, d'être à côté de Sidon, alors qu'ils n'étaient pas à côté de Sidon, ils étaient à côté du Nil. Donc, c'était aussi ouvrir une espérance vers ce moment où le peuple, après toutes les turpitudes en Égypte et les difficultés de la traversée dans le désert, allait enfin pouvoir s'établir dans le pays promis. Donc, c'était un grand encouragement que Moïse donnait aux 12 tribus en rappelant ces prophéties qui avaient été données bien longtemps auparavant. Dieu va délivrer, mais c'était aussi un avertissement avant Canaan. Dieu a un plan déjà qui est prévu pour chaque tribu. Donc, ça nous indique que dans ce texte poétique, prophétique, le premier des textes prophétiques, eh bien, nous avons ces multiples horizons. Et ça, quand vous lisez un texte prophétique dans la suite de la révélation biblique, vous trouvez bien souvent ces divers horizons qui, avec des prophéties qui ont des réalisations partielles, en attendant la révélation ultime qui pointe toujours vers Jésus, puisque c'est là le centre de la révélation et du plan de Dieu. Alors, à partir de ce chapitre 49, ce que je vous propose maintenant, c'est d'en tirer sept grands principes que nous trouvons dans ce chapitre et qui ensuite se retrouvent aussi dans de très nombreux textes prophétiques. Et je trouve très frappant que dès cette première prophétie explicite de la Bible, l'Esprit de Dieu est placé des éléments qui ensuite se retrouveront dans Ésaïe, dans Osée, dans des textes prophétiques, voire même du Nouveau Testament, etc. Alors 7, ça fait bien, donc je me suis arrêté là, peut-être qu'il y en aurait eu 8, je vous les laisse. Regarde. Le premier, c'est savoir que Dieu reste souverain. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je vous ferai savoir ce qu'il arrivera à la fin des jours. » Comment est-il possible que Jacob ait cette prétention ? Vous imaginez, moi je me lève là, je vous dis, mes chers amis, je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des jours. Or, il se trouve que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il a à mettre en exergue un point de la vie de Jacob comme ayant été un élément de foi particulier de sa part, qu'est-ce qu'il va citer ? Il va citer les dernières paroles de Jacob. Et donc, l'Esprit de Dieu a été sur Jacob de façon toute particulière à la fin de sa vie pour qu'il soit capable de montrer à ses fils que Dieu a un plan, que Dieu a une préconnaissance et qu'il a un destin immuable qui va se dérouler. Et donc ce vieillard, 147 ans, très faible comme on le voit, eh bien il se redresse un peu sur son lit pour dire ses paroles à ses fils, parce qu'il a cette vision du plan de Dieu qui va loin. Et donc, même si les détails nous sont inconnus de ce plan de Dieu, eh bien, nous pouvons dire, chacun de nous, qu'effectivement, Dieu a un plan qui va se dérouler, nonobstant les hauts et les bas, l'action de l'homme, etc. Et c'est vrai que ce plan, le fait que Dieu ait un plan, d'un côté, n'empêche pas que l'action de l'homme soit responsable de l'autre, et donc cette action de l'homme est pleinement intégrée dans les plans prédéfinis de Dieu. Savoir que Dieu reste souverain passe aussi par la connaissance de qui il est. Et il est très intéressant de voir que dans ce chapitre, Jacob donne à Dieu 6 noms différents. 5 dans la bénédiction de Joseph, le puissant de Jacob. Ah oui, ça il avait bien constaté, parce qu'il avait eu besoin de cette puissance, parce qu'il avait eu tellement de péripéties dans sa vie, le pauvre Jacob, que s'il n'avait pas eu le puissant de Jacob, le berger. Et c'est ce qu'il a dit déjà au chapitre précédent, au chapitre 48, le Dieu qui a été mon berger jusqu'à ce jour, qu'il bénisse ces jeunes hommes. La pierre d'Israël, alors là on pourrait presque traduire la stèle d'Israël. Et là il fait référence à Bethel, cet endroit où il s'était arrêté, fuyant devant son frère Ésaü, en route vers Padan Aram, quand Dieu lui était apparu dans cette échelle et qu'il avait marqué à vie. Et il dit que finalement, c'est Dieu et cette pierre d'Israël. Il est aussi le Dieu de ton père. Alors là aussi, pour ceux qui parmi nous ont eu le privilège d'avoir des parents chrétiens, c'est aussi un souvenir de se dire que Dieu a été le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, qui les a soutenus jusque-là. Et puis le Tout-Puissant, celui qui est le El Shaddai tellement fréquent dans la bouche des patriarches. Et le sixième nom, c'est celui de la révélation que Dieu va faire plus complètement par la bouche de Moïse dans le livre de l'Exode, en particulier au chapitre 3 et au chapitre 6, Éternel, et que nous trouvons dans ce chapitre quand il est question de ce éternel au milieu du chapitre. Alors ça, c'est vraiment curieux. Nous lisons les premiers versets, du verset 3 jusqu'au verset 17, c'est les prophéties sur les sept premiers fils, pouf ! Et puis, verset 18, une rupture. Et cette rupture est très très riche de sens d'ailleurs. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'en dire grand-chose, mais eh bien, Jacob s'interrompt pour dire « J'ai attendu, ou plutôt, je préfère cette traduction, « J'espère en ton salut, ô Éternel. » Et donc, ce Dieu de l'Alliance, ce Dieu qui se fera connaître encore plus directement par l'intermédiaire de Moïse et de la loi qu'il va donner, ce Dieu de l'Alliance, eh bien, nous attendons, nous espérons en ce salut. Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain, mais Dieu est souverain parce qu'il a un plan de salut. Il a un plan de rédemption pour l'humanité dans son ensemble et puis pour chacun de ceux qui veulent se confier en lui individuellement. Et notre espérance, elle n'est pas dans la descendance. Nous n'espérons pas que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants feront de grandes choses. Notre espérance, elle est en Dieu et en Dieu connu dans sa relation, comme il nous est dit ici, « J'espère en ton salut, ô Éternel ». Et ce salut ne va pas se réaliser par des moyens humains, il va se réaliser par l'action personnelle, puissante de Dieu. Et cela revient juste après, d'ailleurs, la fin de la prophétie sur Dan, où on voit Dan qui va faire de grandes choses, mais en fait, ces grandes choses, ça ne sert à rien s'il n'y a pas Dieu derrière. Donc, savoir que Dieu est souverain. Et c'est ce que nous trouvons dans toute la prophétie. C'est que cette souveraineté de Dieu va s'exercer et que le plan de Dieu va arriver. C'est pour ça que le dernier texte prophétique qui est l'Apocalypse, hein, avec garde les paroles de la prophétie de ce livre, donc ça nous est dit explicitement que c'est un livre prophétique, et bien ce livre prophétique, c'est quoi ? C'est l'agneau qui ouvre les sceaux. C'est Dieu finalement, c'est le triomphe de Dieu par l'agneau que nous présente ce livre magnifique de l'Apocalypse. Parce que le salut ne peut venir que de Dieu. Et c'est la première mention dans l'Écriture du mot salut. Et là aussi, c'est sans doute significatif. Deuxième point, tirer les leçons du passé. Quand nous avions lu le livre de la Genèse dans ses premiers chapitres, qu'avions-nous vu ? Nous avions vu que l'histoire humaine était marquée par la corruption et la violence. Le constat avait été fait avant le déluge, la terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Et malheureusement, cette corruption et cette violence ont continué génération après génération, et aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que nous constatons quand nous regardons ? Nous ouvrons la radio pour écouter les nouvelles, etc. Eh bien, c'est corruption et violence. Et les trois premiers fils de Jacob illustrent malheureusement ces deux points. Ruben, c'est la corruption. Bouillonnant comme des eaux, il est monté sur la couche de son père. Conséquence, il perd son droit d'aînesse. Et Siméon et Lévi, c'est la violence. Leurs glaives ont été des instruments de violence. Et la conséquence, c'est qu'ils sont divisés au milieu d'Israël. Et donc, nous avons un avertissement que nous donne Jacob à la fin de ses trois premiers fils. « Mon âme n'entre pas dans leur conseil secret, ma gloire ne t'unit pas à leur assemblée. » Et donc, dans les textes prophétiques, nous avons aussi besoin de tirer les leçons du passé. Repenser par exemple à Jérémie. Tout ce qu'il nous dit pour dire, ben voilà, ce qui s'est passé, montez à Bethel, regardez s'il y a encore un sanctuaire, regardez, voyez, tirez les leçons du passé. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que nous avons à faire, que Jacob fait devant ses fils, ici, et que nous aussi, nous avons à faire. Le passé peut nous instruire de façon très pertinente, en particulier pour éviter des dangers et des problèmes dans lesquels sont tombés nos prédécesseurs. Troisièmement, apprécier la repentance et la grâce. Et cela vient avec le quatrième fils mentionné. Les péchés de Judas, historiquement, Judas, c'est tout sauf le gars parfait. Hein. Corruption, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les putes, chapitre 38. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ensuite au chapitre 37 ? Violent ? Bah oui, puisqu'il dit « Vendez Joseph aux Madianites ». Quand on vendait quelqu'un comme esclave, ce n'était pas pour lui faire passer un très bon moment. Donc, c'était un homme qui était, lui aussi, comme ses trois frères aînés, corrompu et violent. Mais, et c'est là tout le « mais c'est quelqu'un qui a reconnu ses péchés de façon explicite. Et déjà au chapitre 38, dans l'épisode avec Tamar, il s'était mal conduit, Judas reconnut et dit « Elle est plus juste que moi. » Et puis au chapitre 44, quand il est mené devant Joseph, et que dit-il ? Et il le dit à haute voix, il le dit à haute voix devant tous, devant Joseph. Qu'est-ce qu'il dit ? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Que ton serviteur, je te prie, reste serviteur de mon Seigneur à la place du jeune homme. Puisque vous vous rappelez, Joseph voulait séquestrer Benjamin et Judas se dit, mais mon papa, il ne va plus pas pouvoir supporter ça. Et donc, c'est moi qui vais prendre sa place. Voilà. Donc, on voit le travail de Dieu dans le cœur de Judas en repentance. Et ça, c'est la clé de la bénédiction. Pourquoi Judas bénéficie-t-il d'une bénédiction aussi importante ? Pourquoi Jacob ne rappelle-t-il pas l'épisode triste du chapitre 38 où Judas s'était séparé de ses frères pour aller fricoter avec les Cananéens ? Pourquoi ne rappelle-t-il pas que finalement, c'était lui qui avait un peu pris le lead pour vendre Joseph et faire en sorte qu'il parte en Égypte ? Eh bien, c'est parce qu'il s'est repenti profondément. Et nous avons besoin d'apprécier la repentance et la grâce. Et alors, la grâce pour Judas, c'est qu'il n'y aura plus mention d'aucune faute et qu'il va trouver place dans la lignée du Messie, puisque le Messie sort de Judas, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Notre Seigneur est sorti de Judas. Même. Et donc, c'est valable pour nous, c'est valable du temps de Jacob et de Judas, c'est valable du temps de Moïse qui a rappelé ça devant le peuple en citant ce chapitre, c'est valable pour nous aujourd'hui. Quel que soit le péché, il y a toujours place pour la grâce s'il y a repentance. Et Judas, dans ce sens, anticipe aussi ce que sera David. David aussi, c'est un gars corrompu et violent. L'histoire de Bathsheba, c'est corruption et violence. Je prends la femme d'un autre et puis je fais tuer son mari. Mais il s'est repenti. Et c'est pour cela qu'il peut être dit que David est quelqu'un selon le cœur de Dieu. Donc, il faut vraiment que nous tirions aussi cette leçon de ces textes prophétiques, que quelle que soit la gravité de notre péché, comme on le dit parfois un peu légèrement, mais c'est profondément vrai, à tout péché, miséricorde, s'il y a repentance. S'il y a repentance. Et notre Dieu est un Dieu de pardon au pluriel. Et ces textes-là nous montrent de façon magnifique, me semble-t-il, comment nous pouvons apprécier la repentance et la grâce qui en découle. Quatrième point, et là, oui, alors ce tableau, il apparaît pas très bien, mais on voit l'attitude, le peintre a très bien rendu l'attitude de Judas devant Joseph en repentance. Quatrième point, être conscient des influences. Quand nous lisons ce qui nous est dit du dernier des fils, Benjamin, c'est un loup. Oh là 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 là. On n'a pas l'impression, Benjamin, c'est le petit dernier. Il était avec son papa, et puis il est descendu en Égypte parce qu'on était bien obligé de le faire descendre, sinon on mourrait de faim. C'est le petit dernier. Ben non, c'est une description imagée. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie, et le soir, il partage le butin. Et il faut bien voir que ce caractère de Benjamin, que Jacob avait discerné dans son petit dernier chéri, eh bien, nous le retrouvons dans l'histoire subséquente de la tribu de Benjamin. Et en particulier dans le futur violent qu'elle va vivre à la fin du livre des juges, on sait que cette tribu va être presque exterminée parce qu'elle aura eu une attitude extrêmement violente, que Saül, le premier des rois, qui n'a pas été le législateur attendu puisque sa dynastie s'est éteinte immédiatement, l'homme selon le cœur de l'homme, le roi selon le cœur de l'homme, eh bien ça a été aussi quelqu'un qui a fait preuve de ce loup qui déchire. Pensons à la lutte violente qu'il a soutenue contre David pendant des années et des années pour essayer de ne pas perdre le pouvoir. Et le dernier benjaminite dont il soit question dans la Bible, du moins à ma connaissance, c'est aussi quelqu'un qui n'était pas très sympa de prime abord, c'est Saul de Tarse, qui se vante d'être benjaminite, mais à sa place, j'aurais peut-être, je ne sais pas si c'est tellement positif, parce que Benjamin, c'est un loup qui déchire. Ben oui, c'est lui, il a déchiré l'Église pendant des années, malheureusement, dans la persécution qu'il a fait subir à l'Église. Et donc, on voit que, eh ben, il faut être conscient des influences qu'on peut avoir. Alors, ça ne veut pas dire un déterminisme complet, je vais y venir dans un instant, mais c'est pour ça que j'ai appelé du déterminé à l'indéterminé. Mais néanmoins, il y a des traits, et il faut être conscient que, ben, il y a des familles où la colère, c'est quand même un vrai sujet. Il y a des familles où le fait d'être un peu filou est un vrai sujet, etc. Donc je vous laisse discuter en famille. C'est très qui vous concerne. Voilà. Et puis, un autre aussi, c'est Dan. Dan. L'idolâtrie de Dan. Ah, parce que Dan, c'est un serpent. Ça, on l'a vu, hein, c'est notre BD animalière. Mais c'est quand même une claire allusion, me semble-t-il. Il n'était pas trop question de serpent. Et puis serpent, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est juste, mais qu'il y avait une trentaine de mots hébreux différents pour serpent. Et là, c'est le même que celui qu'on retrouve au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu, la bête des champs que Dieu avait créé. Et donc, si au début du livre, on a le serpent, et à la fin du livre, on a un autre serpent, c'est que peut-être il y a un lien entre les deux. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, suite à la migration de Dan, la tribu de Dan, qui au départ devait être du côté être du côté des Philistins, là au nord de la bande de Gaza actuelle, ils n'ont pas réussi à les détruire, donc ils ont migré tout à fait au nord. C'est pour ça qu'on parle de Dan jusqu'à Beersheba, très souvent, du nord au sud, quoi, du point le plus nord au point le plus sud. Et lors de cette migration, il y a eu l'histoire de Miché avec son idole, etc. Et on voit bien que Dan a été sans doute une des premières tribus à objectivement se livrer de façon consciente et directe à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est mettre un dieu à la place du vrai dieu. Et c'est ce que veut faire le diable. Et donc le diable, le serpent ancien. Et ensuite, quand en 1 Roi chapitre 12, nous avons la division du pays d'Israël en royaume du nord, Jéroboam, et royaume du sud, Roboam, que va faire Jéroboam Ier? Eh bien, il va installer deux autels, l'un à Dan, l'autre à Bethel, pour sacrifier des sacrifices à des idoles. Et c'est le péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui est si souvent rappelé dans la suite du livre des rois. Et donc, cette idolâtrie de Dan, elle nous est suggérée par cette image, et on voit aussi que c'était une tribu qui a été leader, si je puis dire, dans l'idolâtrie. Et donc là aussi, soyons conscients des influences. Et dans la Bible, il nous est dit que Dieu est aussi celui qui est plein de grâce, qui bénit sur une millier de générations, mais qui aussi visite le péché des pères sur les fils jusqu'à la troisième et quatrième génération. Donc le caractère d'un homme et d'une femme affecte, dans une certaine manière, sa vie, sa propre vie bien sûr, et aussi la vie de ses descendants. Mais, et c'est mon cinquième point, il faut agir car tout n'est pas déterminé. Parce qu'on pourrait se dire, c'est absolument déprimant ce que tu nous dis, Joël. C'est-à-dire, si je suis dans une famille de menteurs, je vais mentir tout le temps. Non, parce que nous trouvons aussi dans ce chapitre une très belle illustration de la chose. Nous avons deux fils au destin lié. Vous aurez remarqué que chaque fois Jacob s'adresse à ses fils individuellement, alors que souvent ils sont appelés Dan et Naphtali, ils vont souvent ensemble par exemple. Et là, il les sépare d'ailleurs. Il en met deux au milieu. Mais il y en a deux qu'il va traiter ensemble, c'est Siméon et Lévi. C'est deux copains, apparemment, qui agissent trop violemment et ils sont l'objet de la même prophétie. Je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Sauf que s'est-il passé quelques siècles après? Eh bien, ils ont été effectivement divisés en Jacob et en Israël, mais pas de la même manière. Parce qu'il y a eu une réaction positive, c'est celle de Lévi. Face à l'idolâtrie du veau d'or, Exode chapitre 32, eh bien, Lévi va avoir une réaction courageuse et va se porter du côté de Dieu pour défendre la sainteté de l'Éternel. Les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, Exode 32, verset 28. En revanche, ça en est au début de l'histoire du peuple dans le désert, à la fin de l'histoire du peuple dans le désert, Nombre chapitre 25, que se passait-il? Il y a une scène très négative qui est celle de Baal-Péor. Ça, c'est l'histoire de Balaam. Balaam n'avait pas réussi à maudire le peuple. Donc il s'est dit, ah, j'ai une idée, je vais amener les belles nanas de Moab pour séduire les fils d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Eh bien, un des leaders dans l'histoire, ça a été un certain Zimri, fils de Salu, prince d'une maison de père des Siméonites. Et donc, et là ici, vous avez Finé, qui est d'ailleurs un descendant de Lévi, qui va rompre, si je puis dire, l'harmonie entre les deux tribus, puisqu'il va tuer ce prince des fils de Siméon, qui, à la vue de tout le monde, alors que le jugement avait été déjà porté, continue à pécher. Et donc, nous voyons dans ce récit prophétique cette tension qui est valable dans toute la Bible entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Dieu annonce quelque chose par la bouche de Jacob, les deux tribus vont être dispersées, mais l'une va être dispersée, la tribu de Lévi, parce que ses descendants ont eu cette réaction positive, elle doit être dispersée positivement. Il y aura 48 villes lévitiques qui seront dispersées et les lévites vont avoir l'immense privilège d'enseigner la loi de Dieu aux fils d'Israël. Par contre, les siméonites, eh bien, d'ailleurs, vous remarquerez que si vous regardez les statistiques du livre des Nombres, c'est une tribu qui était assez grande au début, qui devient toute petite à la fin, une des plus petites. Ils vont être dispersés quelque part dans la tribu de Juda et ils vont se dissoudre assez rapidement. Voilà. Donc, c'est pas parce que papa a mal agi, que papa Siméon ou papa Lévi, que finalement, eh bien, je suis obligé de suivre ce chemin-là. Chacun de nous, nous sommes responsables, quels que soient nos antécédents, si lourds qu'ils aient pu être, pour prendre position pour Dieu et agir selon sa pensée. Sixième point, savoir que la prophétie ne s'accomplit pas toujours comme on pourrait le penser. Et ça, c'est un point que nous trouvons illustré par la tribu de Zabulon. Que nous est-il dit de Zabulon ? Zabulon logera sur la côte des mers et sera sur la côte des navires et son côté sera près de Sidon. On se dit, ah ben oui, donc quand le sort va tomber, eh bien, Zabulon, il va être de ce côté-là. Ah ben non, il est là. Ah ben zut, alors, qu'est-ce qui se passe ? Jacob est là, il a eu un petit coup de mou pour la prophétie de Zabulon. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh ben, en fait, non. Effectivement, Zabulon n'est pas au bord de la mer, sauf qu'il va bénéficier énormément du commerce de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des grandes routes, une grande route nord-sud, là, comme ça, et qui amenait les histoires de Sidon et de Tyr, enfin, tous les biens là, des Phéniciens, les pies de maïs qui s'est si bien négocié, eh bien, il va les amener et ça va traverser le territoire de Zabulon. Donc Zabulon va bien, effectivement, être sur la côte des navires parce que les biens qui arrivent en bateau, eh bien, ils vont traverser le territoire de Zabulon et donc il va en bénéficier. Donc ça nous montre que, finalement, par rapport à la prophétie, il ne faut pas être toujours très péremptoire et il faut faire attention de ne pas mettre trop de points sur les détails parce que les détails peuvent se réaliser d'une manière un peu différente de ce à quoi on pourrait s'attendre quand on le lit. Voilà. Donc, quand on lit la prophétie et qu'on cherche à l'interpréter, sachant que tous les détails ne sont pas forcément signifiants et que parfois la prophétie se réalise de façon un peu surprenante, nous prenant peut-être un peu à contre-pied par rapport à la lecture que nous pourrions en faire initialement, et que aussi, ce n'est pas dans ce texte, mais nous pouvons le voir ailleurs, que la prophétie, c'est parfois des choses que Dieu annonce, du genre la prophétie de Jonas vis-à-vis de Ninive. Ninive va être détruite, sauf que Ninive n'a pas été détruite parce que Ninive s'est repentie. Donc là aussi, il y a cette prophétie, je dirais, conditionnelle que nous trouvons. Mais ce n'est pas directement le sujet. Et puis, le dernier point, parce que c'est le point le plus important, les deux fils privilégiés. Comme nous l'avions vu sur le tableau de départ, 17 vers et 19 vers pour respectivement Juda et Joseph, c'est beaucoup plus que les autres. Donc il y a deux fils qui sont mis en exergue de façon très importante. Et pourquoi ? Et alors là, il nous faut aller... La Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Et Chronique, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Ce n'est pas Malachie, hein, c'est Chronique. Regardez l'ordre dans la Bible hébraïque. Donc Chronique, le dernier livre de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il nous dit au chapitre 5 ? Les fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il avait profané le lit de son père, son droit de premier-né fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël, mais il n'a pas eu la primogéniture dans le registre généalogique, car Juda eut la prééminence au milieu de ses frères, et le prince sort de lui, le prince, le Messie. Mais le droit de premier-né fut à Joseph.
C'est un peu compliqué. Hein.
C'est comme si l'auteur des Chroniques disait, bon, alors Ruben, on oublie, mais après il y en a deux. Il y a à la fois Judas et puis Joseph. Et puis tous n'ont pas exactement les mêmes choses. Ah oui, effectivement, parce que quel était le privilège du fils aîné, normalement, c'était à la fois qu'il avait l'autorité sur ses frères et sœurs, et qu'il avait aussi une double part d'héritage. Sauf que là, Jacob va dissocier les deux. Il va dire, bah, Judas, il va avoir la domination, tribu royale, et Joseph, il va avoir la double part, puisqu'il y aura double tribu, tribu d'Éphraïm et tribu de Manassé. Et ce qui est très frappant, c'est que ce que Joseph avait anticipé dans son fameux rêve, chapitre 37, « Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi », eh bien, que fait Jacob? Il ne va pas reprendre cette prophétie pour Joseph. Il va dire, pour Judas, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Et oh, attends, Jacob, là, tu perds un peu la mémoire. Ce n'était pas ça au chapitre 37. Mais c'est volontairement que, cette fois-ci, Jacob attribue à Judas la prophétie que Joseph avait faite au chapitre 37, qui s'était partiellement réalisée, enfin, qui s'était réalisée dans le sens où les fils de Jacob étaient venus et s'étaient prosternés devant le vice-roi d'Égypte pour avoir du pain. Et donc, dans le futur tribal, Judas va être la tribu principale du royaume du Sud, et Joseph, au travers d'Éphraïm, le fils que Jacob avait privilégié au chapitre 48, va être la tribu, et aussi Manassé, va être la tribu principale du royaume du Nord. Et c'est pour cela que d'ailleurs, par métonymie, bien souvent les prophètes vont dire Judas pour parler du royaume du Sud, et Éphraïm pour parler du royaume du Nord, en particulier disait Amos ou des prophètes comme ça. Et ce qui est très frappant aussi, c'est que nous allons avoir des allusions messianiques des deux côtés. Judas, c'est le lion qui est de la tribu de Judas, le lion, lionceau, et un jeune lion, trois fois le lion, il y a toute la famille, hein. Le lion, le jeune lion et puis la lionne. Donc c'est le lion, et l'Apocalypse va nous parler du lion qui est de la tribu de Judas. Le sceptre, le législateur, le Shiloh, j'en ai déjà parlé, et puis à lui l'obéissance des peuples. À qui va être l'obéissance des peuples? Eh bien à Jésus-Christ. Et donc c'est dans cette lignée de Judas. Mais dans la lignée de Joseph aussi, nous trouvons des éléments très intéressants. Joseph qui a été vendu par ses frères. C'est quand même très frappant. Il a été vendu, tu l'as rappelé Michel tout à l'heure, pour Jésus, 30 pièces d'argent. Joseph, c'était 20 pièces d'argent. Enfin, voilà, nous, ça nous parle tout de suite. Les archers qui l'ont provoqué, celui qui a été mis à part de ses frères, etc. Il y a beaucoup d'éléments. Sauf que vous remarquerez que dans le Nouveau Testament, jamais, jamais, il est fait une allusion que Joseph est directement un type de Jésus-Christ. Ah bon, c'est quand même, ça m'a toujours beaucoup frappé. Isaac, il y a David, fils d'Abraham, donc ça veut dire Isaac qui va anticiper Jésus-Christ. Donc il y en a plein de personnages de l'Ancien Testament qui anticipent Jésus-Christ, mais explicitement le Nouveau Testament ne fait pas allusion à Joseph. Ah, c'est bien. Par contre, pourquoi? Parce qu'il y a cette dualité. Et cette dualité, elle est très signifiante. Pourquoi? Parce que, comme quelqu'un l'a dit, et c'est très important, le seul héros de la Bible, c'est Jésus-Christ. Et pour représenter Jésus-Christ, jamais un être humain n'a pu représenter la plénitude de ce qu'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous trouvons souvent des dualités. Ici, Judas et Joseph. Plus tard, ça va être Moïse et Aaron. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, Moïse. Chapitre 5, Aaron, qui sont des types de Jésus-Christ. Et puis plus tard, ça va être David et Salomon, le roi qui vint et le roi qui amène la paix. Parce que jamais un être humain a pu embrasser toute la grandeur et la plénitude de ce qu'est ce Messie parfait que nous attendons. Donc les deux sont des anticipations de l'unique Messie qu'est Jésus-Christ. Et donc nous avons souvent besoin de plusieurs personnages pour nous permettre, plusieurs personnages parfois contemporains, pour nous permettre de cerner et d'anticiper qui est le Messie glorieux. Parce que la prophétie, avant tout, concerne Jésus-Christ. Et l'esprit de prophétie, comme nous le dit le dernier livre de la Bible, le dernier livre prophétique, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et donc, la prophétie, elle n'est pas tellement là pour, comme but premier pour nous dire ben voilà ce qui va arriver à la fin des temps, c'est-à-dire les événements, et est-ce que Armageddon aura lieu 15 jours après ceci ou cela. Ça, ce n'est pas vraiment l'intérêt numéro un. L'intérêt numéro un, c'est de dire le Messie arrive. La solution dont nous avions besoin depuis Genèse 3, depuis cette chute, eh bien, elle va arriver. elle va arriver définitivement. Et alors, en conclusion, je vais prendre les deux mots de la Genèse. Quels sont les deux mots que j'aurais retenus, à votre avis? Vous avez une idée? Ça va me permettre de boire.
Bénédiction.
Voilà, tu avais bien écouté lors de notre week-end d'église. Mais avant, il y a un autre mot, malheureusement. C'est le mot la mort. Parce que le livre de la Genèse, c'est l'irruption de la mort dans la belle création de Dieu. Vous mourrez certainement. Et il mourut. Et il est question de tombeau à Macpéla. Il est question de mort, de gens qui sont morts. Ils sont morts. Et le livre va, comment ce livre se termine-t-il? Par la mort de Jacob et la mort de Joseph. Et moi, j'ai toujours été très frappé par le dernier verset de la Genèse. Je me suis toujours dit, c'est quand même assez frappant que le premier livre de la Bible se termine de la manière suivante, par ce verset, verset 26, « Et Joseph mourut, âgé de 110 ans, et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. » Voilà. On sait que les Égyptiens, ils étaient obsédés par qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et il mourut. Et ça, c'est le terminus ad quo de toute situation humaine. Vous allez mourir. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et ce livre de la Genèse est très frappant, très impressionnant par le fait qu'il nous rappelle la mort. Il mourut. C'est la conclusion du livre. La mort de Jacob, la mort de Joseph. Alors, est-ce que la mort, c'est le dernier mot de Dieu? Dans un sens, oui, puisque vous mourrez certainement. Sauf que Genèse 3 vient après la menace de Genèse 3, de Genèse 2 qui s'accomplit en Genèse 3 vient après Genèse 1, et en Genèse 1, quand Dieu crée l'homme et la femme, il les bénit. Et effectivement, nous avons le second mot de la Genèse qui est la bénédiction. Alors, j'ai lu quelque part qu'il se trouvait 88 fois sous la forme de substantif ou de verbe ou d'adjectif. Je vous laisse vérifier. Si c'est 88 fois, c'est très bien, 8 fois, on s'en rendait compte. Et c'est quand même le mot-clé du chapitre 49. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, fin de ce chapitre, hein, tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Donc, c'est intéressant, une tribu d'Israël. Donc, on voit que ça pointait loin. Vers le moment où ce ne seraient pas simplement des individus, mais des tribus. Et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Trois fois. Bénissant, béni, bénédiction. Au cas où on n'aurait pas tout à fait bien compris que c'était ce que Dieu voulait. Bénir. Donc le mot-clé est là. Et pourtant, vous me direz, mais j'ai lu dans ce chapitre qui avait marqué « Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur furie, car elle a été cruelle ». Est-ce que pour les trois premiers fils, au moins, est-ce que c'est vraiment des bénédictions? Eh bien, oui, malgré Ruben. Eh bien, Ruben est quand même devenu une tribu, il n'a pas été éliminé. Et pour les deux fils-là, qu'est-ce qu'il est dit? Maudite soit leur colère, mais pas leur personne. C'est le comportement qui est stigmatisé, c'est pas la personne qui est rejetée. Vous voyez la différence, combien c'est important? La colère est maudite, oui, parce que leur colère a été mauvaise. Mais leurs personnes, ils ont été dispersés, les uns positivement, les autres négativement, comme vous l'avez vu. Mais toutes les tribus sont entrées. Toutes les tribus sont entrées. Et toutes les tribus ont été bénies. Alors, un exemple aussi, vous voyez, là aussi, pourquoi, quand Jacob prend l'ordre des fils, bon, il prend les 6 fils de Léa, et puis après, il prend Dan, et il dit... Dan jugera son peuple comme ses frères. Pourquoi? Parce que Dan, c'était le fils de la concubine, le premier fils de la première concubine. Et que normalement, à l'époque, il y avait les enfants des femmes légitimes et puis les enfants des concubines. Et là, Jacob dit, mais non, Dan il sera au même niveau que ses frères. Et les 12 tribus, il n'y a pas eu 6 plus 2 plus 4. Ou 8 plus 4. Non, non. Tous. Donc il y a une bénédiction pour tout le monde. Et cette bénédiction, elle est par Joseph, puisque c'est lui qui a permis que ses frères soient maintenus en vie. Et puis cette bénédiction, elle s'étend. Et alors la pensée à cette branche qui passe par-dessus la mort. Cette bénédiction, elle n'est pas circonscrite à la seule famille de Jacob, si bénie soit-elle. Et les Juifs ont été bénis dans un certain sens, même si aussi ils ont beaucoup de, de difficultés, mais elle s'étend et la bénédiction d'Abraham s'étend auprès de tous les peuples. Et donc cette bénédiction qui s'étend, qui passe au-dessus de la muraille, eh bien, elle nous fait penser à cette bénédiction universelle que Dieu avait donnée à Abraham en Genèse au chapitre 12 et qui finalement s'étendra par Jésus-Christ, dont Joseph était l'anticipation, jusqu'au bout de la terre. Donc la pensée de Dieu, c'est bénir. Et comment peut-il bénir alors qu'il était question de mort ? Comment concilier la mort et la bénédiction ? Eh bien, uniquement par ce que nous avons rappelé, chers amis, tout à l'heure, par la mort de celui dont Joseph Judas ne sont que la pâle anticipation. Il n'y a que par sa mort à lui que la mort est vaincue et que désormais la bénédiction de vie peut s'étendre au-delà de la muraille, auprès de chacun de nous, auprès de chaque personne que je vois en face de moi. Oui, Dieu peut bénir et Dieu peut te bénir et il le fait. Gloire à lui.